Merci. Et tout de suite, on déhousse les raquettes.
1, 2, 3.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Paul Fournel, bonsoir.
Hello, I'm Paul Smith.
Et tous les deux, vous nous invitez à avaler la route à bicyclette.
Ping-pong. La culture sans limite. Oh, yeah. Et
la culture, ça sert à changer de braquet. Sur les routes de la création, n'est-ce pas, il n'est pas rare de croiser un cycliste contrarié. Aujourd'hui, nous recevons Paul Smith, l'homme aux rayures cultes et à la couture rock, tombé littéralement dans la création à 17 ans après une chute à vélo. C'est la fin de ses espoirs de cycliste professionnel et le début de ses aventures artistiques. Il n'est pas rare que derrière un bon styliste se cache un vélo brisé. Chez le petit Michel Audiard, ce sera son génial et rutilant Lucifer demi-course, repris par un huissier à l'âge de 13 ans, ce qui lui laissera l'image que l'on sait des hommes de loi. Le petit Michel, fou de livres et de vélos, de Balzac et de Céline, sera livreur pour un libraire et portera le maillot blanc cerclé de bleu sur la piste du Veldiv avant que la guerre n'éclate. Le vélo, comme inséparable des mots et de son travail mécanique du dialogue, si bien qu'on l'appellera le petit cycliste du cinéma. Mais attention, il y a vélo et bicyclette, comme il se le précise à propos du tonton flingueur Lino Ventura.
Lino et le vélo, laissez-moi rire 5 minutes.
Pourquoi ?
Non, il fait du vélo comme un facteur fait du vélo. Il se déplace à bicyclette. Mais il a un vélo, voilà, c'est ça qui est paradoxal, parce qu'il fait de la bicyclette sur un vélo, c'est là que c'est compliqué.
Savoir reconnaître un bon coup de pédale, faire la différence entre vélo et bicyclette, voilà une bonne école artistique et même une hygiène créative. Comme l'écrit Philippe Bordas dans Les Forcenés, le vélo est devenu l'allié organique de mon écriture, mon électricité quotidienne. À relire Les Forcenés de Philippe Bordas aux éditions Folio et aussi l'encyclopédie Audiard augmentée chez Hugo et Si. Et tout de suite, on démarre la course avec les deux pôles, Smith et Fournel.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen, ping-pong, c'est sur France Culture.
Moitié roue et moitié cerveau, voici l'homme vélocipède. Il va plus docile qu'un veau, moitié roue et moitié cerveau. Il se rit, animal nouveau, de Buffon et de Lacépède. Moitié roue et moitié cerveau, voici l'homme vélocipède.
That's right, yes.
Tout à fait.
C'est la honte, c'est dommage que vous ne voyez pas, parce que là, on est en fait, on est sur des vélos.
Yes.
Bien sûr, on est sur des vélos, oui, absolument.
Paul Smith, vous nous recevez avec Paul Fournel dans votre showroom parisien. On est entouré de maillots. Il y a même un maillot arc-en-ciel qui fait penser au maillot du championnat du monde derrière vous sur un mannequin. Vous venez de publier chez Artaud mon album du cyclisme, ce qu'on appelle en français un beau livre. Parce qu'il y a dedans de superbes images, les images des revues, des maillots cyclistes que vous collectionnez et aussi des vélos que vous collectionnez ou que vous avez designés, dessinés. Mais si c'est un beau livre, c'est peut-être plus encore parce que vous vous racontez par petites touches dedans. Et j'aimerais peut-être, pour commencer, que vous nous parliez de votre découverte, de l'importance de se créer un style, vous, le styliste. Et cette découverte, je crois, s'est passée quand vous aviez 16 ans dans un supermarché quelque part en Italie.
Disons que mon histoire commence à l'âge de 11 ans. Avec le vélo, je veux dire. Mon père m'avait acheté une superbe bicyclette. Et il l'avait acheté à un homme qui faisait partie du club cycliste local. Et il lui a dit, « Oh, si votre fils veut devenir membre du club, veut sortir avec les membres du club, il est le bienvenu. » Et j'avais donc 11 ans. Ça, ça a vraiment été le début de plein de choses pour moi. D'apprendre le travail en équipe, de s'entraider, l'esprit de compétition. Naturellement, il fallait avoir l'air cool. Et il fallait que la bicyclette soit cool. En général, je dormais avec ma bicyclette dans ma chambre et je la vénérais chaque soir. Et avec le peu d'argent de poche que j'avais, Il y avait un journal que l'on vendait chez le marchand de journaux qui, de temps en temps, il avait l'équipe parfois.
Bonne lecture, bonne lecture.
Good reading. Et puis, vous savez, il y avait... De voir là, tout d'un quelqu'un qui portait le maillot jaune. Le premier que j'ai vu, c'est Jacques Anquetil. Je me rappelle rentrer chez moi et de dire à mon père, vraiment j'aime Jacques Anquetil.
Très bon choix. J'ai dû faire la même chose à peu près le même jour.
Je me souviens bien.
Et lui, mais vous savez, mes parents n'avaient jamais voyagé dans aucun autre pays étranger. Jamais. Ils n'avaient parlé une autre langue. Et mon père m'a dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ces mots? Jacques Anquetil, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'était le début de mon amour pour le vélo.
On va revenir à Jacques Anquetil et Jacques Anquetil tout seul avec Paul Fournel, mais justement, en reparlant de cette période de la fin des années 50, où vous êtes donc au Beeston Road Club de Nottingham, on est dans un moment où le vélo en Angleterre est pas aussi populaire qu'il le deviendra plus tard. Vous qui allez habiller plus tard les Who ou les Pink Floyd, en quoi cette époque-là, pour vous, c'est presque une époque de la contre-culture du vélo, Paul Smith?
Oui, c'était un sport vraiment pour la classe ouvrière. Pas du tout un sport populaire. Et quand j'ai atteint l'âge de 15 ans, j'étais pas très bon à l'école. Et donc à 15 ans, mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'avais pas de qualification, j'avais pas vraiment la possibilité d'aller à l'université. Mon père m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? J'ai dit, je veux être coureur professionnel. Et là, il m'a dit, ça c'est pas un vrai boulot.
Et dans votre recherche des unes de magazines de l'équipe, des bons maillots, il y a quelque chose de l'ordre de la recherche de la bonne pochette, du bon import dans un magasin de disques. C'était des choses difficiles à trouver aussi, tout ce qu'il y a autour du vélo, Paul Smith.
Mais vous savez, à cette époque, j'étais pas vraiment du tout préoccupé par la mode. Bien sûr, on avait un maillot dans notre club, dans notre équipe, qui était pas vraiment fantastique, qui grattait, parce que c'était fait en laine. Surtout le dimanche, quand en hiver, sous la pluie, plein de pluie, et là, ça devenait lourd ce maillot, et très inconfortable. Je revenais à la maison et je sautais dans un bain que ma mère m'avait fait couler, bien chaud. Et là, je restais une heure dans ce bain, à écouter à l'émission Top of the Pops, cette émission musicale, sur mon transistor. Voilà, c'était des souvenirs très agréables.
Paul Fournel, vous portez un maillot qui n'a pas l'air de gratter d'ailleurs et qui a été designé, dessiné par Paul Smith.
Ben oui, c'est ma fierté. J'ai un beau maillot de chez Rafa. Il est tout noir avec une bande blanche au milieu du biceps gauche. Il est très chic. Il a deux poches devant, comme on faisait autrefois. Jacques Anquetil avait deux poches comme ça et il les faisait coudre par Jeannine, sa femme, pour que le vent s'engouffre pas à l'intérieur dans les épreuves contre la montre et qu'il ne soit pas freiné par un effet parachute. Donc c'était quelque chose de très bien. Alors donc j'ai ce maillot très chic avec dessous un petit t-shirt en laine fine, qui est aussi de chez Rafa. Tout ça est parfait pour la demi-saison. On est vraiment équipé là, en ce moment, c'est idéal.
Et puis c'est de la laine.
Ah oui, bien sûr, c'est de la laine, mais alors elle ne gratte pas du tout, celle-là. Elle est vraiment douce.
C'est le mérinos de Paul Smith.
Oui, exactement.
Mais avant qu'on plonge dans le sillage, qu'on suce la roue, comme on dit, de Jacques Anquetil avec vous, qui est donc l'auteur de Anquetil tout seul, Paul Fournel, j'aimerais que vous nous disiez, vous l'écrivain, ce que le vélo fait à l'imagination, avec ce mouvement, cette façon aussi d'observer le monde depuis un vélo.
Ce qui est intéressant, je pense, dans le vélo, c'est qu'on est dans le paysage.
Contrairement à la voiture ou contrairement à tout autre moyen de transport, le vélo, on est dans le pays. On fait partie de la chaleur, du froid, du vent, de la pluie. Donc on est obligé d'intégrer de la côte, de la descente, tout ça. On est obligé d'intégrer l'extérieur. Et ça, c'est une ouverture extraordinaire au monde. C'est très généreux comme situation. Parce qu'on subit tout ce qui est à subir du monde et on apprécie tout ce qui est à apprécier. Donc il y a quelque chose d'extrêmement intense. Intense et doux à la fois. Et je pense que cette présence au monde qui est celle du cycliste est une présence très très intéressante. Et c'est un moment aussi où on peut vraiment se laisser aller, s'abandonner à une gamme de sensations un peu inédites et où l'imaginaire se ressource, se reconstruit, s'organise différemment. Et il y a quelque chose de très beau. Et puis ensuite, il y a dans la pratique de la bicyclette la présence de l'autre qui est une chose intéressante aussi. N'importe qui peut faire du vélo longtemps sans trop de soucis, n'importe quel être en forme à peu près peut faire ça. En revanche, aller au rythme des autres, c'est une autre affaire. Et il y a toujours cette intrusion de l'autre dans le débat cycliste qui est une chose passionnante. L'autre qui est un petit peu mieux que soi-même dans la côte, ou l'autre qui sera un peu plus gonflé dans la descente, etc. Ou l'autre qui traîne un peu derrière et qui, d'un seul coup, vous fait sentir plus costaud et plus balèze que vous n'êtes, quoi. Donc c'est il y a toute une gamme de voluptés cyclistes qui enrichissent l'expérience de vivre.
Et pour vous, Paul Smith, bien sûr, dans le cyclisme, il y a l'esthétisme. Vous citez dans ce livre les lunettes de soleil de Fausto Coppi, les maillots de Jacques Anquetil dont on parlait à l'instant, les superbes graphismes Campagnolo. On pense bien sûr de manière profane au maillot à poids du Tour de France pour le meilleur grimpeur. Mais au-delà de toute cette iconographie et de cet esthétisme, il y a quelque chose qui vous séduit de fondamentalement sportif et humain dans le vélo. Vous parlez de subtilité difficile à saisir dans ce livre. C'est quoi pour vous ce qu'il y a au-delà de l'esthétique dans le vélo?
Well, I think the thing with cycling is that it's you and the bicycle.
Le vélo, vous savez, c'est vous et la machine et la bicyclette.
Many sports,
dans bien des sports.
Helped by for instance, Formula 1.
Par exemple, la Formule 1.
It's helped by the fantastic car.
Bien sûr, la voiture, l'engin, ça vous aide. Mais le vélo, c'est plus réel. Bien sûr, il y a d'autres sports comme le tennis ou la course où ça ressemble. Mais moi, ce que j'ai aimé avec le vélo, c'est que je ne me rendais pas compte à l'époque comment il fallait me comporter moi-même avec les autres dans une équipe. Et ça, c'était très excitant, très enthousiasmant. Le jour où on monte, où on fait une montée, ben, il faut s'entraîner à ça. Et moi, par exemple, moi dans mon équipe, j'ai à peu près 1000 personnes, ils ont chacun des forces et des faiblesses, et c'est avec le vélo que j'ai appris à gérer ça, à gérer celui qui a besoin de quelque chose qui est bon pour, dans son domaine, mais qui a besoin d'aide dans un autre. Et ça, ça a été vraiment une aide. Mais comme Paul l'a dit, être à l'extérieur avec le vélo, le vent dans le visage, le bruit des pneus, c'est quelque chose de fantastique. On avait un membre de notre club qui toujours avait un look génial. Toujours. Il avait vraiment un style fou. Un jour, on l'a attrapé parce qu'il arrivait aux réunions du club du jeudi en train, avec sa bicyclette. En fait, il prenait le train. Et donc, on se dit toujours, « Ah, mais là, tu as fait du train, de l'entraînement. » C'est ça. Parce qu'il est toujours immaculé, jamais un cheveu de travers. Et les autres, nous, on était tous sales, avec les mains sales, parce qu'on avait mis les mains dans le cambouis.
On garde aussi les maillots de Paris-Roubaix, quand ils sont bien boueux, qu'ils sont bien sales, on conserve la boue, on conserve la saleté. Elle est aussi précieuse que la couleur du maillot.
Ah oui, oui. Ah, j'en ai qui puent assez, hein, des maillots. Du Tour de France. Mark Cavendish. Oui.
Paul Smith, à l'instant, Paul Fournel évoquait la volupté, toutes les voluptés du vélo. Vous, vous avouez dans votre album du cyclisme que, au début de l'adolescence, vous regardiez moins les filles que votre bicyclette. Or, vous êtes notamment...
Oui, c'est un peu triste, hein. C'est pathétique.
Mais bon, allez, mais ça a changé, hein, je vous rassure.
Mais est-ce que ça a vraiment changé? Parce que vous êtes connu notamment pour les bandes de couleurs que vous mettez sur les vêtements et que vous avez pu mettre sur des vélos que vous avez designés, dessinés et conçus. En France, les bandes, ça a un double sens. C'est aussi bandé. Est-ce que vous bandez à l'époque pour le vélo? Ou est-ce que vous, peut-être vous bandez encore pour le vélo?
Ah oui. C'est la raison, bien sûr, pour laquelle j'ai fait ça. Non, 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 hein, en vérité. Les bandes et la couleur, c'est venu peut-être du vélo, oui, parce que... C'est vrai. Il y a une histoire intéressante qu'on raconte sur Tommy Simpson. Quand il faisait partie de l'équipe Peugeot, c'était le moment de du début de la télévision en couleur. Et les maillots, à l'époque, ce qui paraissait le mieux, qui sortait le mieux, était ce qui était en noir et blanc à la télévision, même si c'était la télévision en couleur. C'était intéressant comment on joue avec la couleur pour attirer l'attention du spectateur. Et puis une question de joie, d'optimisme, bien sûr.
On retrouve la Bayadère de Paul Smith qui est célèbre. On voit bien qu'elle vient aussi de votre observation du vélo, de votre amour iconographique, de ce style, de ces choses qui sont restées comme ça inconsciemment dans votre imaginaire créatif. On se rend compte aussi que le créateur, donc Paul Smith, qu'on a devant nous aujourd'hui, ne serait pas le même sans le vélo. Mais si vraiment il avait été au bout, il aurait pu aussi ne pas être du tout Paul Smith, le créateur, parce que c'est le vélo qui fait que vous êtes devenu cette personne. Si vous n'étiez pas tombé à l'âge de 17 ans, si vous n'étiez pas allé à l'hôpital, si vous n'avez pas travaillé dans ce pub qui était à côté de l'hôpital, vous n'auriez pas rencontré d'étudiants en art, vous n'auriez pas évoqué avec eux tout un tas de choses. Donc, est-ce que c'est une uchronie intime, comme ça, une histoire à l'envers que vous vous faites parfois? Si j'avais été ce coureur cycliste.
J'ai l'impression que la chose la plus merveilleuse qui peut vous arriver dans la vie, ça vous arrive d'accident.
Maybe you can see because it's radio.
Oui. Alors, là, c'est
Paul
la radio.
Smith
alors,
sa chemise.
Vous pouvez pas le voir.
Ah, je vois. Oui.
This is the broken one. C'est le vélo cassé.
C'est
le vélo des 17
ans. C'est le vélo cassé. Oui. C'est cet accident qui m'a finalement propulsé dans la mode. Le t-shirt que je porte, il y a dessus une photo, la photo du vélo cassé avec lequel j'ai eu un accident. Comme vous le dites, oui. Je m'intéressais au style, à la couleur. Mais ce n'est qu'après cet accident. Et que le monde autour de moi s'est renversé. C'est là que petit à petit, je me suis rendu compte que la créativité, c'était peut-être pour moi. Et c'était à partir d'un accident. Et ça m'a, comme vous le savez, ça m'a aidé dans ma carrière. Cependant, j'ai jamais perdu mon amour pour le vélo.
Paul Fournel, à propos de style et à propos de jouer avec les couleurs, dans votre Anctil tout seul, vous y insistez aussi. Très tôt, Jacques Anquetil a joué avec les couleurs de ses polos et il avait un tel amour du style, lui qu'on disait charmant, coquet, qu'il aurait même voulu être travesti.
Oui, enfin, il y avait quelque chose de Anquetil dans lui, hein. Il y avait un côté un petit peu féminin, qui était très intéressant même dans sa façon de pédaler, avec cette manière de relever le talon comme ça derrière. Et il y avait quelque chose d'aérien, il y avait quelque chose d'un peu... Aujourd'hui qu'on voit beaucoup de femmes sur le vélo, ce qui est une chose merveilleuse, toutes ces gazelles comme ça dans les pelotons. Et il y avait quelque chose de féminin dans son allure et dans son dans son goût du costume, dans son goût pour les vêtements un peu chic. Il aimait ça. Il aimait les costards, il aimait les cravates et il était toujours très élégant. C'était un trait qui n'était pas du tout partagé par l'ensemble du peloton à l'époque, hein. Certainement pas. Il était vraiment une exception de ce point de vue-là.
Vous dites, Paul Fournel, que Jacques Anquetil pédale blond.
Voilà, c'est ça, il y avait un
Qu'est-ce
côté...
que vous entendez par cette formule qui est assez incroyable, je trouve.
Oui,
pédale blond, Jacques Anquetil.
C'est précisément ça, que j'ai, avec cet adjectif, que j'ai voulu rendre. C'est cette idée que... dans un peloton qui est un peloton d'hommes du Sud, d'hommes rudes, il y a beaucoup d'Espagnols, beaucoup d'Italiens, beaucoup dans ce peloton-là, beaucoup de Français, des Auvergnats. Il y avait un côté nordique chez lui. On dit qu'il était descendant des Vikings, c'est pas pour rien. Hein. Et il y avait un côté comme ça, très assez aérien dans sa manière d'être, dans sa manière de pédaler, qui fait que aujourd'hui encore, des gens comme Paul Smith l'aiment. ou comme moi, alors qu'il a pu être détesté par des milliers, des millions de personnes.
Et on était poulidoristes,
onctilistes. Voilà, il y avait quelque chose comme ça d'atypique chez lui, qui faisait qu'on le reconnaissait immédiatement. Et dans ce côté atypique, il y avait un côté élégant et un peu féminin qui jouait effectivement. Alors que tout dans sa personnalité disait au contraire la masculinité, l'énergie, la volonté de vaincre, etc. Mais dans ce qu'il dégageait, il y avait quelque chose de sensible.
Mais à propos d'élégance, Paul Smith, vous nous recevez avec Paul Fournel chez vous, dans votre showroom parisien, je le disais, on est au milieu des vêtements, des jerseys, des maillots que vous avez pu dessiner, et vous avez même dessiné des maillots de cyclisme, en particulier pour le Giro, le Tour d'Italie en 2013, et le pape s'en est mêlé, je crois d'ailleurs, de vos maillots, mais expliquez-nous avec votre regard d'homme de l'art et du style, comment on fait un maillot cycliste selon Paul Smith? Parlez-nous de coupe, de matière.
Le problème pour un maillot, pour quelque chose d'aussi important comme le Giro ou le Tour de France, c'est qu'il y a beaucoup de restrictions. Il faut que ce soit rose, en tout cas pour l'Italie, ou jaune pour le Tour de France. Et puis il y a les sponsors qui demandent d'avoir leur nom, leur logo. Donc j'avais 3 centimètres qui me restait pour ma touche personnelle. J'ai mis ces fameuses lignes, ces bandes vraiment sur le côté du maillot. J'ai joué avec le graphisme. J'aime beaucoup le graphisme de ces vieux maillots de vélo.
Anquetil,
je trouve, au début des années 60.
Saint-Raphaël, oui, bien sûr.
Avec Saint-Raphaël. Et aussi, une des équipes, c'était Evian. Vous savez, l'eau minérale. Imaginez, moi, jeune à Nottingham, au milieu de l'Angleterre, qui disait à mon père, vraiment, j'aime beaucoup Saint-Raphaël. J'aime énormément à mon père. Mon père disait Saint-Raphaël ou Evian. Je me rappelle avoir acheté une toute petite bouteille d'Evian, d'eau d'Evian, et de la poser sur mon étagère comme un trophée. Et je vénérais ce trophée.
Mais le lettrage de Saint-Raphaël était magnifique. Ah, le lettrage était incroyable, vraiment, c'était un très très beau lettrage.
Ah oui, comme quelque chose de manuscrit. Et récemment, j'ai acheté une pendule en France avec le logo de Saint-Raphaël. C'est très intéressant de voir l'association qui existait entre les mots, le sponsor, le graphisme. Et bien sûr,
oui,
le coureur.
Et l'équipe Saint-Raphaël, c'était celle qui était dirigée par Raphaël Gimignani en plus. Donc il y avait une connivence comme ça entre le prénom et la marque. Et puis il y avait, bien sûr, c'était Jacques Anquetil qui en était la vedette. Et donc c'était Saint-Raphaël était vraiment une très très grande marque à l'époque d'apéritif et de cyclisme.
Et dans mon album du cyclisme, Paul Smith, vous le rappelez, c'est effectivement le vélo qui va inaugurer ce lettrage et ce graphisme du sponsor sur les maillots. Ça n'existe pas dans les autres sports. Et il y a aussi une beauté pure de l'iconographie des magazines. Vous avez notamment pris du temps sur une où Roger Vivière est allongé sur les feuilles dans un numéro spécial du Miroir des Sports. Vous évoquez presque une image religieuse. Il y avait comme ça, dans cette iconographie populaire, quelque chose de fondamentalement splendide, quoi.
Oui, c'est quand il s'est cassé le dos.
1960.
Il est allongé. C'est comme une image religieuse, vous avez raison. Il est allongé, comme ça. Je crois que c'est vert, blanc et bleu, je crois, les couleurs. J'ai l'impression que, sans m'en rendre compte, l'usage de la couleur sur ces maillots a été une grande influence pour moi. Et aussi la construction du vélo, la façon dont le vélo était conçu. Paul se rendra compte que je prenais mon ongle et je grattais le long de la pédale, là où il y a, juste en dessous de la
sur
selle.
Le tube de selle.
C'était tellement beau la façon dont c'était conçu.
C'est vrai.
Je faisais le petit bruit comme ça en raclant mon nom.
Ça, c'était de très belles pièces détachées. On les trouve encore, donc aujourd'hui, certains les refont. Hein.
Ouais.
Oui, j'en ai quelques-unes moi-même.
Mais précisément, parlons de technique, parce que vous avez dessiné, conçu de nombreux vélos. On le découvre dans votre album du cyclisme, Paul Smith. Et vous, vous vous mêlez aussi de technique, ou du moins de mathématiques, Paul Fournel, avec les membres de l'Oulipo, hein, de l'ouvroir de littérature potentielle. Et il se trouve que cyclisme et mathématiques ont à voir. C'est une activité physique, le cyclisme, qui fait l'objet de formulations mathématiques. Il y a le travail et la puissance du cycliste d'un côté, et puis sa vitesse, la position sur le vélo.
Il y a d'abord une première chose qui est comment ça se fait que ça tienne debout? Hein? Qu'est-ce qui fait qu'un vélo tient debout et que se casse pas la figure? C'est un problème physique très très intéressant et très complexe en vérité. C'est parce que la roue avant peut faire des sinuosités quasiment invisibles et que l'équilibre se maintient. Mais c'est une sorte de petit miracle.
Et votre façon de vous emparer de cette dimension mathématique, physique au sens de la science,
n'exagérons rien. À part changer de braquet quand ça monte, ma capacité mathématique d'analyse du cyclisme est assez mince.
Et même en littérature,
même en littérature.
Quand vous passez au 52-13.
52-13, on peut accélérer un peu. Oui, je crois que sur scène, pour jouer Anquetil tout seul, Matilda Maliarakis utilise un 54, quelque chose comme ça. Donc il tire gros. Et c'est en hommage au braquet démentiel de Jacques Anquetil. Donc il y a bien sûr le braquet, c'est une sorte de langage magique du cycliste. Entre cyclistes, on se reconnaît tout de suite à cause de ça. 52-14, t'as combien? T'as mis combien? Tu mets combien? C'est une sorte de rituel comme ça entre soi. On voit tout de suite le gars qui met 52-14, ah, c'est un costaud, hein. C'est vraiment un balèze. Et celui qui met 58-11, c'est Tony Martin, et il est champion du monde, voilà, c'est pas compliqué.
Paul Smith, à l'instant, Paul Fournel nous parle de la magie de certaines formules en vélo, et on se rend compte, en lisant votre livre, qu'il y a des formules magiques du vélo. Il y a des surnoms de légende, l'aigle de Tolède pour Federico Baumontes. On a Eddy Merckx, le cannibale. Le Paris-Roubaix, c'est l'enfer du Nord. Est-ce qu'il y avait cette dimension profondément littéraire, magique, mystique, qui vous attirait aussi dans le vélo, dans son écrit? Paul Smith.
Well, yes, I mean, I love nicknames.
Ah oui, bien sûr, j'adore les surnoms.
Especially the hell of the North.
Et surtout l'enfer du Nord, parce que c'est vraiment l'enfer du Nord, littéralement.
Incredible race.
C'est une course incroyable.
And I love the fact that
et j'aime aussi, parce que j'avais un grand nez, on m'appelait l'aigle parfois. Tout ça, bien sûr, c'est une magie. 1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui pédale blond, porte rose et toujours en bande. À suivre, débat cycliste et esthétique avec nos deux Paul, Smith et Fournel.
Ping Pong. La culture sans limite.
Et comme dans une étape du Tour de France, la caravane passe. Mais en l'occurrence, pas celle des sponsors, car avec notre disque du jour, c'est plutôt une caravane de chameaux bardés de néons tuning et cornaqués par le duo parisien Acid Arabe, deux musiciens électroniques qui embarquent le peloton dans un tourbillon d'acid house parfumé à la fleur d'oranger, comme avec le morceau La Hafla, la fête, où les synthés aux sonorités orientalo-lysergiques serpentent sur un beat entêtant, chevauché par la voix chaude de Sofiane Saïdi, qui chante, je cite, « une femme forte qui chérit sa liberté » et ne veut recevoir d'ordre de personne.
يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس المضويات يا ماما ويا ماما شاطرة كيف الخرجات حواس المضويات يا فاطمة بنت الجارو ديري وسيب وحلا نسيك راني كولي زاد عليا الهم والحمارية كي ندير نشوفك راكي طولي يا ماما ويا ماما قلت عليا مولات الحزام وعطاني رونديفو في لاكورنيش بحال هاي جوهر في اللي شافها هاد الليلة محال ننساها جابت عليا مولات الحزام وعطاني رونديفو في لاكورنيش بحال هاي جوهر في اللي شافها هاد الليلة محال ننساها يا ماما ويا ماما شاطرة في قتلها تحواس البطويات يا ماما ويا ماما شاطرة في قتلها تحواس البطويات في حفلة
La fête, selon Guido Miniski et Hervé Carvalho, alias Acide Arabe, dont le nouvel album, Musique de France, vient de sortir sous le label Cram Discs. Et Acide Arabe vous invite à festoyer dans vos plus beaux maillots lors de leurs prochaines étapes, ce soir au Primeur à Castres et demain au Pitchfork Festival à la Grande Halle de la Villette.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
C'était dans le terrible col de l'Isoard.
Oh, j'aime pas me mélanger, j'aime pas faire gaffe, j'aime être derrière, j'ai la paix, je fais mes comptes.
Ah, tu parles, y'a que toi qui compte, quoi, tout pour toi, rien pour toi.
Fais chier! Et dans les moments de solitude, je suis plus fort que tous les autres hommes. Et je peux rêver et m'évader à mon aise.
Anctil cachait ainsi un peu de la fibre dont sont tissées mes rêves. Peut-être son grand secret était-il en fin de compte d'être partout où il n'était pas.
Extrait d'Anctil tout seul, joué au studio Héberto jusqu'au 13 novembre. C'est votre texte, Paul Fournel, qui est mis en scène. On est dans la tête de Jacques Anctil. Vous avez évoqué tout à l'heure son côté féminin au milieu du masculin pluriel. Il y a aussi quelque chose de fondamentalement rock'n'roll chez Jacques Anctil. Est-ce que c'est ça qui vous a attiré, son côté ménage à trois et un petit peu toxicomane?
Non, c'est pas vraiment, c'est pas tout à fait la même chose que le rock'n'roll. Mais je pense pas. Non, ce qui est attirant chez Jacques Anctil, évidemment, c'est cette personnalité complexe qui n'est pas celle de tous les sportifs. Anctil avait son franc-parler, il avait sa liberté de parole, et cette liberté de parole, il n'a jamais transigé là-dessus. Même lorsqu'on lui a demandé de rétracter les propos qu'il avait tenus à propos du dopage, par exemple, jamais il n'a cédé sur ces points-là.
Il dit on peut pas faire le Tour de France à l'eau
voilà,
claire. Hein.
Et exactement. Et donc, il avait une liberté de parole qui était très, très inhabituelle et qui l'est encore aujourd'hui. Ne nous en cachons pas. Donc, évidemment, le spectacle de Roland Guenoun à partir de mon livre Anctil tout seul reflète cette liberté-là. Et à la fois, on est à l'intérieur de Jacques Anctil lorsqu'il raconte la douleur de pédaler, la difficulté de son travail, etc. Mais on est aussi à l'extérieur lorsqu'il fait des conférences de presse où il donne des où il parle simplement avec Jeannine sa femme ou avec Raphaël Gemignani son entraîneur ou même avec Poulidor sont devenus copains au bout d'un moment et donc il y a toute cette atmosphère comme ça qui est rendue et tous ces traits de personnalité qui se combinent et se complètent.
Paul Fournel, vous évoquez aussi en passant quelques figures de la littérature, des écrivains cyclistes, il y a bien sûr Blondin, et vous saluez la capacité, la qualité des articles que Blondin a pu faire dans la presse sportive à l'époque pour approcher la psychologie des coureurs. Et vous avez cette phrase à propos d'Anctil qui, à mon sens, cerne un point essentiel de la psychologie. En tout cas, j'aimerais que vous nous l'expliquiez. C'est Anctil disant « je me fuis ». Sur le vélo.
Oui, oui, il y a quelque chose chez lui d'assez particulier. Il disait, il faut toujours faire la part de la provocation dans ce qu'il dit, mais il a toujours dit qu'il n'aimait pas le vélo, que le vélo l'aimait et que donc le vélo allait le payer. Voilà, et donc il a été très bien payé, ça, pour ça il n'y a pas de doute. Donc c'était quelque chose, il était assez provocateur de nature. Cette liberté même de parole se fondait beaucoup sur la provocation. Et donc il y avait chez lui cette volonté comme ça de se démarquer, d'être un athlète différent. Peut-être aussi parce qu'il était surdoué.
Anquetil, c'est vrai, par exemple, qui va prendre position sur ce qu'il appelle les vendeurs de papier. Il va leur dire, voilà, c'est ça que vous voulez, du spectacle. Alors, soyons d'accord, si vous voulez du spectacle, on va vous en donner simplement.
Exactement.
Il faut concevoir que ça peut se faire avec certaines drogues, dans certaines conditions. Quelque part, voilà, vous nous poussez aussi.
Oui, il était absolument contre l'hypocrisie générale et l'omerta générale sur les problèmes de dopage, sur les problèmes de aussi d'argent dans le peloton. On sait très bien que des courses s'achètent, se vendent, que des équipes se bradent, s'échangent quand il n'y a plus d'espoir de victoire d'un côté ou de l'autre. Ben voilà, on tire le meilleur. Ce sont des professionnels et ces professionnels, ils vivent de leur métier, de leur travail et toutes les combines sont permises. Anquetil a eu le mérite, le premier, de le dire. Et de le dire très clairement, sans ambiguïté. Donc ça lui a valu des emmerdements absolument sans nom. Et ça lui a valu aussi, je pense, un très 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 réel désamour du grand public qui s'est porté sur Poulidor, qui était un homme plus traditionnel dans son approche et dans son discours sur le métier de coureur cycliste. Et donc il y a quelque chose de singulier chez lui.
Paul Smith, il y a dans votre album du cyclisme, qui donc vient de paraître chez Artaud, des portraits de grands cyclistes. Il y a Jacques Anquetil, et puis il y a aussi Tom Simpson, coureur britannique, qui a pu lui aussi dénoncer les marchandages qu'il y a pu y avoir dans certaines courses professionnelles. Mais pour revenir à Jacques Anquetil, on évoquait toute la complexité du personnage. Paul Fournel nous invite à découvrir ça, ce côté gothique de Jacques Anquetil. Vous, comment est-ce que vous l'avez perçu enfant quand il était ce maillot jaune indétrônable? Pour vous, c'était simplement cette silhouette, cette beauté, ou il y avait aussi cette complexité d'Anquetil dans votre perception du personnage?
Mais j'apprends aujourd'hui plein de choses et c'est fantastique, plein de choses que je ne savais pas. Moi, j'aimais sa chevelure, sa coiffure. Non, je rigole. Vous savez, j'avais plus l'âge que je vais avoir, 13 ans peut-être. Je parlais pas un mot de français. Jamais on n'avait eu la possibilité de regarder le Tour de France à la télé. Ça n'existait pas pour nous. Bien sûr, on n'avait bien sûr aucun média social. Et donc c'était de loin.
Oui, mais vous voyez, en même temps, c'est très intéressant parce que Anquetil était une image. Et cette image de coureur était perceptible de l'autre côté du channel, même si on parlait pas français, même si on ne lisait pas l'équipe, même si on n'écoutait pas la radio et la télé française. Donc il y avait quelque chose de très fort dans cette image.
C'est très intéressant ce que vous dites. Parce que j'avais donc 12 ans, j'habitais dans la province anglaise. Papa, ma mère et maman n'avaient jamais voyagé. Et donc il y avait quelque chose comme ça que je pouvais voir, percevoir, et c'était à travers un homme que je pouvais comprendre ce que c'était que le vélo, le cyclisme. L'autre que je pouvais connaître, c'était Fausto Coppi, qui venait d'avant, qui était plus ancien, mais je connaissais que son nom, c'est tout. Et voilà, c'est tout. Aujourd'hui, c'est intéressant vraiment pour moi
d'apprendre. C'est pas par hasard que Jacques Anquetil, lorsqu'il avait 18 ans et qu'il a commencé à devenir un très très grand champion, son premier voyage, ça a été pour aller voir Fausto Coppi. C'était très clair qu'il ne voulait pas discuter avec le peloton, avec la base du peloton. Il discutait avec Coppi, personnellement, pour aller lui dire « ça sera moi maintenant ». Après toi, c'est moi. C'était ça, c'était très clair. Et c'était un môme encore. Hein. Et il a fait cette démarche-là, qui en dit long sur la personnalité et sur le projet du personnage.
Fausto Coppi, comme Jacques Anquetil, qui sont dans le livre de Paul Smith, qui font partie de ces coureurs mythiques sur lesquels vous revenez. Vous avez souligné chez Jacques Anquetil sa décontraction chic. C'est ça que vous appréciez, entre autres, Paul Smith. Et au-delà donc de la décontraction chic de Jacques Anquetil, qu'est-ce qui vous a apparu de l'homme par rapport à ce qu'il peut vous dire de vous? Parce que je sais que Paul Fournel se cherche chez Anquetil. Qu'est-ce qu'il vous disait à vous, Jacques Anquetil, à ce Paul Smith qui le regarde à cette époque?
Ça aurait été bien de dire que je me cherchais moi-même à travers Anquetil, oui, mais bien sûr, c'est bien des années plus tard. Mais George Best, vous savez, le footballeur, ça a été sans doute la première superstar du football, en tout cas dans mon pays.
Gothique lui aussi.
ou punk, hein, ça dépend.
Bien sûr, il y a Uncle Till, qui peut être la première superstar du sport en France. Je ne sais pas, peut-être, on peut dire ça, peut-être qu'il y en avait d'autres. En tout cas, Fausto Coppi en Italie. Alors c'est intéressant, c'est que tout ça, ça se rejoint. C'est une histoire vraiment de physique, de beau physique, d'une personnalité et aussi d'une capacité sportive. Moi, je connaissais Best assez bien. Et lui, il était sous une telle pression. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes une star, vous avez un cercle autour de vous, des gens qui vous protègent. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. C'est intéressant de voir qu'avec Anctil, il avait un cercle autour de lui, des gens.
Il avait, bien sûr. Il y avait Janine, d'abord, qui était sa femme, qui l'a accompagné toute sa carrière sportive et qui a été très près de lui. Il y avait Gemignani, il était protégé, oui, c'était un champion protégé déjà.
Et oui, il faut toujours vraiment une femme derrière chaque homme.
Not only the behind, Paul Smith.
A good woman.
Mais moi justement, je voudrais savoir ce qui, dans cette grande famille des esthètes, on va dire, du sport, que ce soit dans le football ou dans le cyclisme, en quoi alors qu'il y a un palmarès incroyable chez Anctil, par exemple, en outre 5 Tours de France gagnés, en quoi il y a quelque chose de plus fort que la réussite? Vous le soulignez dans votre livre, Paul Smith, dans votre petit club, il y a un coureur qui s'habille très bien, qui gagne de manière correcte. Il y en a un qui s'habille n'importe comment et qui gagne de manière sublime. Qu'est-ce que tous ces grands profils d'esthètes du sport vous disent sur ce qui est le beau pour vous, Paul Smith?
Il y avait un gars dans notre club qui avait beaucoup de succès, mais qui n'avait aucune personnalité du tout. Il était très, très solitaire. Et en fait, personne ne s'intéressait à lui, même s'il était vraiment très bon. Il y en avait un autre dans notre club qui m'agaçait terriblement parce qu'il gagnait toujours. Et il avait du poil aux pattes et des chaussettes noires. Et moi, j'étais parfait, j'étais super mignon et je gagnais jamais. Alors que lui, il avait une drôle de façon de courir, il avait un style vraiment catastrophique, mais il gagnait. Et donc on percevait les forces et les faiblesses de chacun. Ce qui est intéressant chez Uncle Till, il me semble, pas forcément chez lui, mais des gens comme lui, c'est que souvent les gens me disent « De quoi êtes-vous le plus fier dans ma carrière ?» Moi je dis « La continuité ». La persévérance, et c'est ça que lui, il avait. 5 Tours de France, la persévérance. Toujours là, présent, en forme, préparé. Toujours le bon look. Et ça, c'est ça qui m'intéresse.
Un homme qui pouvait faire la même semaine la une de l'équipe et la une de Paris Match, il n'y en avait pas tant que ça dans le peloton. Il faut tout de même bien se persuader de ça et s'en rappeler.
Mais ça, c'est très
intéressant.
Vous parlez de son attitude. On a pu parler dans la première partie de notre entretien, Paul Fournel, de l'élégance et presque féminine de Jacques Anquetil sur sa bicyclette, sur son vélo pendant les courses. Mais j'aimerais qu'on dise un mot, puisque Paul Smith parlait de l'apparence de certains des coureurs avec qui il pédalait enfant, qu'on dise un mot de son corps et de son visage que vous cherchez à cerner par l'écriture dans Anquetil tout seul.
Oui, il a un corps qui est un petit peu... je dis que son coup de pédale était un mensonge. En fait, c'était un homme ultra puissant, qui avait véritablement une machine physiologique incroyable. Pour autant, on le croyait maigre, ou presque, sur le vélo. Il préfigurait un peu les champions d'aujourd'hui, qui sont tous comme des ablettes, et il y avait quelque chose comme ça. Et en vérité, pas du tout. Lorsqu'on y regarde de près, il avait des fesses et des cuisses absolument monumentales. Mais il avait un torse étroit, il avait un visage comme ça, très fin, très creusé, avec ce nez qui avançait, comme celui de Paul Smith, par exemple.
Aérodynamique.
Et voilà, un nez aérodynamique, un nez taillé pour la bicyclette. Et donc, il y avait ce côté comme ça.
Le mur du vent.
Voilà, c'est ça, il rentrait dans le vent comme ça, et donc il y avait quelque chose comme ça, d'une apparence un peu frêle, Et puis le côté blond, qui n'est pas un côté très 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 répandu.
Enfin, et sa lividité dans l'effort.
Voilà, et ce côté pâle, il était l'effort. Au lieu de le faire rougir, on a l'impression qu'il ne bronzait pas, que voilà, qu'il était que dans l'effort, il était absolument livide, creusé, les yeux enfoncés, et il faisait un peu peur lorsqu'on le voyait à l'effort. Il y a des photos de lui qui sont un peu effrayantes. Paul Smith en a mis quelques-unes dans son bouquin, et qui donne une idée un peu. Une sorte de dimension un peu tragique aussi au personnage. En gros, c'est l'idée que c'était pas facile. C'est pour ça que la pièce Anquetil tout seul démarre sur cette espèce de moment solitaire où Anquetil décrit la douleur de pédaler.
Il n'est pas possible que les autres tiennent alors que je souffre autant.
Alors que je souffre autant. Et donc c'est cette idée comme ça que il y a dans la souffrance, il y a eu un outil de domination, il y a quelque chose de très puissant. Et c'est quelqu'un qui, toute sa vie, comme Paul Smith le disait, a été très constant dans cette qualité d'effort-là, qui est un effort maximal, solitaire, difficile, extrêmement douloureux.
Et dans le livre de Paul Fournel, c'est bien distingué, il y a avoir mal et se faire mal.
Oui, bien sûr, ce sont deux choses très très différentes. Dans se faire mal, il y a une volonté supérieure qui est celle qui va aller au-delà de la raison, au-delà de la souffrance. Et dans avoir mal, c'est autre chose, ça. C'est plutôt Roger Rivière tombé dans le col de Manté, qui est couché là, comme on le voit dans le livre de Paul Smith, où il est là dans les herbes et dans les feuilles mortes, et il attend. Là, il a mal. Lui, il a mal. Il a fini de se faire mal. C'est terminé. Il se fera plus jamais mal à vélo. C'est terminé pour lui. Il a mal.
J'aimerais qu'on s'arrête un instant. On parle beaucoup de Jack Anquetil, mais il a pu avoir Simpson dans sa roue ou devant lui. Tom Simpson qui vient du Nottinghamshire, de la région dont vous êtes originaire, qui est mort en haut du Mont Ventoux en 1967 après un abus d'amphétamine, comme le faisait Anquetil sans s'en cacher. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce champion, du rôle qu'il a pu jouer dans votre panthéon, dans votre imagination ?
C'était un cycliste britannique. En Grande-Bretagne, il n'y avait pas du tout de vélo professionnel. Il a fallu qu'il aille sur le continent, mais alors il était insignifiant, personne ne s'intéressait à lui. Il s'est dit, mais comment est-ce que alors je peux marquer les gens et les choses? Et vous voyez la photo dans mon livre, il porte ce costume très Prince of Wales, et il a trouvé cet équilibre entre ses qualités en tant que sportif, sa passion, et puis comme Anquetil, une façon de communiquer qui attirait l'attention sur lui. Non, mais sérieusement, la drogue, vous en avez parlé, les substances, c'était aussi la pression de la presse, des médias et de tout le monde pour en faire plus, fais mieux, fais plus. On appelle ça vraiment la pression de son monde, de ses pairs. On ne va pas parler là-dessus de tout ça, du dopage, mais en vérité, c'est que si nous étions autour de cette table exactement avec les mêmes capacités physiques, ça ferait vraiment mal si quelqu'un d'entre nous gagnait et tout d'un coup gagnait la course. Ça serait quelque chose qui changerait vraiment beaucoup l'équipe. Ça serait un problème. Et on dit que Fausto Coppi prenait 40 expressos avant de grimper la montagne.
Et des expressos italiens, attention.
Ah oui, c'est les ristretto.
C'est dingue qu'il n'ait pas atterri sur la Lune.
D'ailleurs, c'est Antoine Blondin qui, dans l'une de ses chroniques sur le Tour de France, cite Flaubert, là, c'est la fin du Tour de France, et il dit c'est la mélancolie des sympathies interrompues.
Oui.
Est-ce qu'on pourrait parler, Paul Fournel, une seconde de ce Tour de France dont Paul Smith nous dit que c'est quand même une institution sportive qui, cette fois, va devoir effacer le nom de son vainqueur, et si on continue à la suivre, c'est bien qu'elle a quelque chose qui nous emmène au-delà, et que c'est peut-être ça le sens du vélo aujourd'hui.
Ce dont parle Blondin, c'est une sensation que tous les amoureux du vélo connaissent très très bien. La fin du Tour de France, chaque année, c'est un moment de mélancolie terrible. C'est la fin de l'été,
C'est la fin du soleil, c'est la fin de quelque chose. Quelque chose se brise chaque année à la fin du Tour de France. C'est ce qui fait qu'on est content de voir la carte du Tour de France de l'année prochaine et qu'on commence à remonter un petit peu la pendule et le moral va remonter petit à petit. On va voir les courses, on va voir qui est en forme, etc., etc., pour culminer dans ces trois semaines donc qui vont de fin juin au 21 juillet. Et je vous assure que réellement, et ça depuis l'enfance, j'éprouve ça, la fin du Tour, c'est vraiment une dépression. Et c'est tout à fait ce que dit Blondin. C'est cette espèce
Citant
de...
Flaubert.
Pour lui, en plus, évidemment, Blondin, c'était trois semaines passées sur la route avec les copains, à boire des canons et à regarder les coureurs, à bavarder avec eux. Et d'un seul coup, on arrivait à Paris et boum, ça s'arrête. Et donc, il y a quelque chose comme ça d'un mode de vie qui s'interrompt brusquement. Et c'est quelque chose de très mélancolique.
Ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on choisit d'oublier, de rayer, c'est la Danatio Memoriae, comme on faisait dans l'Antiquité, le nom de vainqueur parce qu'il a été prouvé qu'ils étaient dopés. Mais ce que vous rappelez, vous y insistez, même si c'est pas le plus important, au contraire, chez Anquetil, dans Anquetil tout seul, Paul Fournel, c'est que, voilà, il y a du doping, comme on dit, dès les années 50-60 dans les médias, dans le cyclisme, et que sans cela, il n'y a rien. Vous racontez même une course où Anquetil essaye de courir à l'eau claire,
oui.
Au terme de laquelle il dit « plus jamais ça ».
Oui, ben oui, parce que c'est un mode de vie, c'est une habitude qui est prise et qui est installée dans le peloton, qui est installée dans chacun des coureurs. On a commencé la lutte antidopage officiellement au début des années 60, 61. On n'a toujours pas résolu le problème en 2016. Donc, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas très très rond. Peut-être qu'on cherche pas exactement ce qu'il faut chercher comme il faut le chercher, ou peut-être que le dopage est quelque chose de beaucoup plus puissant encore qu'on ne l'imagine. En tout cas, on n'y est pas arrivé et on est loin d'y être. On est très très loin d'y être. Et donc, voilà, c'est une chose qu'on ne peut que constater.
Dans Anquetil tout seul, il y a cette phrase hein, « Moi, j'aurais vécu en une vie ceux qui ont vécu la même chose en cinq ou six vies. »
Oui, bien sûr. Ce sont des vies accélérées. C'est des vies à 45 de moyenne. Donc, c'est des vies, des destins accélérés. C'est le destin d'un coureur cycliste. C'est pas un destin ordinaire. Il n'y en a pas des wagons. Hein.
Paul Fournel, le propre du vélo, c'est aussi d'être né à une époque où il n'y avait pas toute cette imagerie instantanée et multiforme, même si elle est venue grâce au vélo en particulier, Mathilde en parlait tout à l'heure, ça a été beaucoup, longtemps, des images littéraires. Ça a poussé les écrivains à l'écriture. Et il y a cette expression que je trouve très belle qu'on doit à Maurice Leblanc, le père d'Arsène Lupin. L'homme à vélo, il est quasiment contemporain du moment où cet attelage est né. Il dit que c'est un homme plus vite. Vous,
oui, il y
grâce
a un
au
homme
vélo,
plus vite.
Vous vous sentez un homme plus vite grâce au vélo ?
Plus vite et plus lent. À l'époque, certainement plus vite. Maintenant, plus vite et plus lent. Beaucoup plus lent. Et beaucoup moins vite. Mais surtout avec l'âge. Mais c'est sûr que l'allure, le rythme du vélo est un rythme très particulier qui n'est vraiment pas du tout celui de la marche, qui n'est pas du tout encore moins celui de l'automobile. Et donc, il n'y a pas cette course comme ça. Il y a quelque chose de très particulier. Donc, dès l'origine, cette accélération comme ça du rythme de la vie est assez exceptionnelle. Et c'est ce qui fait que le vélo est un sport littéraire. Vraiment. Et il a toujours eu une connivence incroyable avec les médias. C'est un sport qui a une chance exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il a eu les meilleurs écrivains derrière lui pour le raconter, pour le magnifier, pour l'idéaliser. Il a eu les meilleurs journalistes, véritablement. Si vous lisez les articles d'un Pierre Chani, d'un Philippe Brunel, vous voyez que ce sont vraiment les meilleurs journalistes possibles. Il a eu pour lui les meilleurs hommes de radio, Georges Briquet, qui faisait vibrer la France sur les petits postes à transistor. Et il a la meilleure télévision du monde. Il n'y a pas d'équivalent
en dramaturgie sportive que une étape de montagne dans le Tour de France. La télévision rend hommage au cyclisme comme à aucun autre sport. C'est vraiment extraordinaire qu'un sport quand on pense que c'est un sport qui taille la route, et qui est un sport qui se promène un petit peu partout et dans des endroits escarpés, mal commodes, etc., et qu'il en est rendu compte de cette façon-là par les images, c'est extraordinaire. Et ça, c'est la chance du vélo.
Pour finir, Paul Smith, on dit que lorsqu'on pénètre dans votre bureau à Londres, avec les collections de maillots et de vélos, avec les collabs Mercion, Rafa et Pinarello, avec ce maillot du Giro en Italie en 2013 béni par le pape, vos collaborateurs disent attention, vous êtes dans la tête de Paul Smith. C'est exactement comme ça, à l'intérieur de son cerveau.
Malheureusement, ils disent ça, oui. Ils disent que oui, c'est comme le cerveau de Paul et ça m'inquiète beaucoup. Si c'est vrai, au secours.
Ping-pong.
Merci beaucoup à
Thank
tous
so
deux.
Much.
Merci,
Paul
bonne route.
Paul Smith, Paul Fournel. Paul Smith, donc, mon album du cyclisme, c'est édité, votre beau livre, votre lovely book chez Artaud. Paul Fournel, vous êtes donc l'auteur de Anquetil tout seul au seuil et qui est actuellement au théâtre, au studio Héberto jusqu'au 13 novembre dans une mise en scène de Roland Guénoun.
Le ping-pong est une étape radiophonique qui se gagne en équipe et qu'à l'équipe, à la rédaction Aïssette Wendoy, Jeanne Allais, Océane Boutata et Lila Bozès, à la réalisation Thomas Beau et à la prise de son Jérémy Thuil aujourd'hui. On remercie pour l'interprétation simultanée, y compris des jeux de mots, Harold Manning.
En danseuse pendant toute l'émission, le ping-pong se pratique aussi, comme le vélo de plus en plus, sur internet, sur franceculture.fr. Lundi. Ping Pong regarde les vivants et interroge notre époque du regard avec la réalisatrice Catel Quillévéré et le psychanalyste Laurent Dupont.
Et dans quelques instants, dernier volet des entretiens de la voix pas voilée de Fanny Ardant. Ce sera dans À voix nue.